Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Christophe Massin pour parler de la confiance. Ce que c'est exactement, quelles sont ses diverses nuances psychiques ou spirituelles, quels sont ses degrés, par quel travail sur soi et en particulier sur nos peurs, pouvons-nous entrer dans la confiance, confiance relative ou confiance absolue, et pourquoi cette confiance est souhaitable pour mener une vie meilleure, plus lucide, plus accordée au réel. Bonjour Christophe Massin.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, mais un psychiatre d'un genre un peu particulier, puisque vous êtes profondément inspiré dans votre pratique personnelle et médicale des sagesses de l'Inde, en particulier des enseignements de Mahanandamayi et de Swami Prajnampada. Et plus largement, vous n'excluez pas, loin de là, la dimension spirituelle de votre approche thérapeutique. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la place des émotions dans la vie psychique et à la manière dont ces émotions jouent un rôle essentiel dans le travail de connaissance de soi qu'est toute entreprise spirituelle. Vous avez d'ailleurs publié sur ce sujet un excellent ouvrage qui a remporté le prix Psychologie FNAC en 2014 et pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu aux Racines du Ciel au temps où nous faisions les Racines du Ciel avec Frédéric Lenoir et que c'était diffusé à 7h du matin puisque ça n'aura pas échappé à nos auditeurs que désormais nous sommes le dimanche à 16h. Vous nous revenez donc cette année avec un nouvel ouvrage toujours chez Odile Jacob intitulé « Une vie en confiance, dialogue sur la peur et autres folies », ouvrage dans lequel vous analysez les mécanismes des peurs qui nous empêchent d'aborder la réalité telle qu'elle est et de vivre par conséquent une vie en confiance, une vie où on est réellement soi-même. Mais je voudrais commencer cette émission par la fin, en réalité, de votre livre, si vous me le permettez, puisque à la fin de votre livre, vous consacrez 2 pages dans lesquelles vous rendez hommage à tous ceux qui vous ont aidé à grandir et à entrer dans cette confiance. Donc Christophe Massin, comment le psychiatre que vous étiez, le psychiatre français formé à l'école de médecine française, est entré dans cette philosophie si particulière inspirée des sagesses de l'Inde?
Alors, quand j'y suis entré, en fait, j'étais pas psychiatre, j'étais étudiant en médecine. Et c'est en lisant les livres d'Arnaud Desjardins et Le message des Tibétains, comme ça, avant de partir en Inde, que j'ai découvert cet univers que j'ignorais totalement. Et en lisant le message des Tibétains, j'ai dit « Ah, mais il y a là quelque chose de vraiment extraordinaire. » Et mon voyage en Inde va changer de perspective. Et arrivé en Inde, donc j'ai eu vraiment l'envie d'aller rencontrer ces maîtres tibétains dont Arnaud parlait dans le message. Et j'en ai rencontré un notamment qui s'appelait Kangyur Rinpoche, qui était le premier maître de Mathieu Ricard. Et cette rencontre, c'était juste avant sa mort. Là, vraiment, c'est comme si, un mur tombait devant moi et que je découvrais, mais ça existe, un tel rayonnement, une telle joie, un tel amour. Je n'avais aucune notion de ça. Donc, j'avais 20 ans et ça a changé le cours de ma vie. Donc, j'ai lu les autres. À l'époque, il y avait Les Chemins de la Sagesse d'Arnaud Desjardins qui était publié, donc ses premiers livres en fait. Et j'avais ça en Inde. Et donc j'ai lu Les Chemins de la Sagesse et j'ai dit, mais c'est ça que je cherche sans le savoir. Et donc en fait, Arnaud était là en Inde pour son dernier séjour auprès de son maître qui est mort lui aussi juste après. Et de retour en France, je lui écris et je suis allé le voir. Et de là, toute l'aventure a commencé.
Et je crois que cette aventure vous a d'ailleurs mené à rencontrer aussi Denise Desjardins, oui. À laquelle je voudrais ici rendre hommage, puisqu'elle est décédée en mars de cette année. D'ailleurs, notre partenaire Le Monde des Religions a mis sur son site un entretien vidéo qui avait été fait avec elle, donc sur le site lemondesdesreligions.fr, on peut la retrouver. Et nos auditeurs pourront aussi la retrouver lors des rediffusions de l'été, dans les 2 émissions que nous lui avions consacrées dans la série des grands témoins. C'est vrai que nous sommes très heureux de l'avoir rencontrée avant qu'elle ne parte pour ce dernier voyage, parce que c'est vrai qu'elle c'était une femme d'un rayonnement absolument incroyable. C'est vrai qu'on a été très impressionnés de la rencontrer. Et je crois que pour vous aussi, ça a été une rencontre très, très importante.
Oui, oui. Oui, et Denise et Arnaud, les deux ont été une rencontre très importante. Denise, par toute son approche du travail sur l'inconscient, sur les émotions, donc j'ai découvert avec elle, et puis Arnaud plutôt en tant que vraiment guide spirituel pendant des années. Donc oui, ces deux personnes ont joué un rôle essentiel dans mon cheminement, le plus important en fait.
Alors justement, c'est vrai que ce qui était ressorti beaucoup des entretiens que nous avions eus avec Denise Desjardins, c'est précisément cette question très importante dans tout cheminement spirituel, qui est de se confronter à ses peurs. Et au fond, votre livre, qui est un livre sur la confiance, commence par déblayer le terrain de la peur, d'expliquer ce que c'est que la peur. Alors, expliquez-nous, Christophe Massin, de quoi sont tissées nos peurs et en fait d'où elles viennent, à la fois d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue spirituel.
Oui, je dirais, pour moi, il y a des peurs qui sont les peurs qui surgissent au contact d'un événement dangereux qui font partie de la vie, ce que j'appelle les peurs animales. Ces peurs-là ne posent pas de problème. Ben voilà, vous manquez de vous faire renverser par une voiture, vous avez peur, vous vous faites un bond en arrière. Ces peurs-là ne sont pas un souci.
Elles sont même
elles
utiles.
Elles sont utiles. Oui. Et on voit certains enfants ont un défaut génétique, ils n'ont pas peur et ils se mettent en danger, ils se tuent en fait. Donc cette peur-là est protectrice de la vie. Mais nous avons un autre registre de peurs que j'appelle dans le livre des peurs psychologiques, qui sont des peurs que nous mémorisons durant l'enfance, au contact de situations qui, pour l'enfant, sont vécues comme dangereuses, dans son monde, dans son ressenti, qui ne le sont pas forcément objectivement, mais lui, en tout cas, il les vit comme ça. Et donc, il en tire inconsciemment des lois. Et qui vont l'amener à se méfier et à développer des comportements d'évitement, toutes sortes de choses qui vont lui compliquer énormément la tâche pour ne pas se trouver confronté à nouveau à la peur. Et donc ces peurs justement vont se remanifester à l'âge adulte et dans des situations aussi bien relationnelles que des situations de travail, dans tous les domaines de la vie, le passage d'un examen, que sais-je. Donc on va voir ressurgir des peurs et qui sont complètement disproportionnées par rapport à la situation, qui sont plus des peurs, qui sont en rapport direct avec la situation, qui viennent vraiment de la situation, mais que nous projetons. Donc, ils viennent de l'intérieur et quelqu'un qui est anxieux, il est comme une tête chercheuse pour chercher le problème qui va se produire. Et il va en voir partout des problèmes. Donc, c'est pas qu'il y a des problèmes à l'extérieur, c'est que cette personne, en quelque sorte, a besoin pour satisfaire, entre guillemets, son anxiété, d'en trouver. Donc ça, c'est une véritable calamité, en fait, pour la personne. Mais le plus souvent, ces peurs sont latentes. Elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas conscientes et elles agissent dans l'ombre. Et donc, voilà, ces peurs-là, elles sont véritablement problématiques. Si j'ai peur du rejet, si j'ai peur de l'abandon, souvent, je ne le sais même pas.
Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au fond, travailler la peur. Et c'est en cela aussi que c'est en relation directe, à mon sens, et c'est ce que vous montrez dans le livre, avec un travail de connaissance de soi, qui est quand même la base du travail spirituel, c'est que, en fait, la peur, elle est basée très souvent sur de l'ignorance, c'est-à-dire sur des imaginations, sur des illusions, ou c'est des choses qu'on ne sait pas sur soi-même, ou des choses que l'on croit savoir, mais qui sont purement illusoires.
Vous disiez, il y a deux ordres, il y a une explication spirituelle et une explication psychologique. Là, j'ai évoqué l'explication psychologique. Oui, il y a une cause historique à nos peurs qui viennent de l'enfance, mais il y a aussi une explication ontologique. Qui est ce que dit le Vedanta, qu'à partir du moment où il y a deux, il y a la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir du moment où je me considère comme un individu séparé, ayant sa propre volition, ses propres désirs, ses propres craintes, eh bien, le reste, tout ce qui n'est pas moi, eh bien, peut ne pas répondre à mon attente, peut me menacer, peut me mettre en danger. Et donc, pour maintenir mon existence séparée, eh bien, je vais être, au fond, dans un combat permanent avec le reste, pour que le reste m'obéisse, ne m'impose pas des choses que je ne veux pas. Donc, je vais être dans une tension de peur. Donc, il y a cette explication plus fondamentale à la peur, parce que certes, on peut progresser par un travail de psychothérapie sur les peurs particulières de chacun, mais on va trouver la confiance, se dégager de l'emprise de la peur qui est l'émotion fondamentale, qui est l'émotion justement de la séparation. Quand on est séparé de la totalité, eh bien, on est en insécurité, en fait, fondamentalement.
Oui, et donc le travail consiste, alors en même temps, Vous avez fait ce livre sous la forme d'un dialogue qui est en fait fictif, mais à base d'expériences réelles que vous avez mélangées, en fait, et que vous avez représentées par un homme et une femme. Mais alors, dans le dialogue, c'est vrai que souvent, quand vous donnez des explications, vos personnages, ils sont assez vite convaincus, je dirais. Mais c'est vrai que dans le réel, ça prend quand même beaucoup plus de temps de se confronter à la peur. Puisque, comme vous le dites, ça commence dès qu'on est bébé, au fond. On ne peut pas s'empêcher d'être des êtres de peur. Ça n'existe pas, un monde dans lequel il n'y aurait pas la peur.
Bien sûr. Donc, déjà, la première étape, c'est souvent des expériences de la vie qui vont nous montrer, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, on ne va pas dire forcément c'est la peur, mais on va dire ah ben j'arrive pas à faire ceci, ou mes relations affectives capotent toujours, ou j'arrive pas à faire les études que je veux, ou que sais-je. Donc on va constater quelque chose ne va pas, mais sans forcément dire c'est la peur qui cause ça. On va attribuer ça souvent à d'autres causes, en fait. Donc il y a effectivement un premier cheminement qui est de mettre en évidence la peur qui est à l'arrière-plan.
Vous donnez un exemple qui m'a beaucoup frappée. C'est celui de l'enfant qui croit qu'il y a un loup dans sa chambre. Alors, moi, ma fille, elle croyait toujours qu'il y avait des requins, mais qu'importe, hein, ça peut être des loups, des requins ou des araignées. Mais la question, c'est... et vous dites, on peut pas dire à l'enfant, mais non, il n'y a pas de loup. On peut allumer la lumière, lui dire, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de loup. Mais vous dites, ça ne marche pas. Alors d'abord, pourquoi... Et c'est pareil pour les adultes. En réalité, vous donnez cet exemple pour montrer que nous aussi, on a des peurs totalement irrationnelles, mais on aura beau nous expliquer qu'il ne faut pas qu'on ait peur, enfin, il n'y a pas de quoi avoir peur, eh bien, on a quand même peur.
Eh oui.
Alors, comment... mais vous n'expliquez pas exactement comment on peut, ne serait-ce qu'à l'enfant, comment on peut le convaincre qu'il n'y a pas de loup. Puisque dès qu'on aura éteint la lumière, à nouveau, le loup va ressurgir dans son imagination.
Mais parce qu'en fait, au fond, la peur de l'enfant nous dérange et on veut supprimer la peur. Et donc, justement, ce que je veux montrer dans le livre, c'est que ça, c'est vain. Ça ne fonctionne pas. La personne qui a peur, elle a peur. C'est indiscutable et vous pouvez lui expliquer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça peut la rassurer un peu, mais ça ne va pas résoudre sa peur. Donc, il y a un chemin à faire vers la peur qui est déjà d'admettre, mais oui, j'ai peur. L'enfant, avant tout, si vous lui dites qu'il n'y a pas de loup, il est seul avec sa peur et donc il reste inquiet. Donc, il a besoin que vous soyez à ses côtés, à dire « Ah oui, tu as très peur du loup, mais oui, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? T'entends des bruits? Tu as vu une forme? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un loup ?» Que vous rentriez complètement dans son monde de peur, pour qu'il puisse exprimer sa peur. Et souvent, on va aboutir éventuellement à quelque chose qu'on n'a pas prévu, de ce qui fait véritablement peur. Mais si on s'en tient à « mais non, c'est stupide, enfin regarde, il n'y a pas de loup », l'enfant se sent incompris, on n'entre pas en relation avec sa peur. Donc ce qui est nécessaire, c'est de se mettre à la portée de la peur pour la laisser parler et voir « mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ?»
Est-ce qu'il y a dans le ressenti, dans le corps, quelque chose qui est plus proche du réel que la construction du raisonnement?
Quand on est dans la peur, on imagine. Au sens propre, on a des images, on imagine, il va se passer ceci, il va se passer cela. On est fixé sur des images mentales qui sont elles-mêmes comme de l'essence qui va activer le feu. Donc plus j'imagine, plus j'ai peur. Donc, du point de vue de l'imaginaire et de la pensée, il n'y a pas de solution. Alors, j'essaye, si quelqu'un vient me dire « mais non, n'aie pas peur », je vais essayer de remplacer certaines images par des images plus rassurantes. Mais ça ne va pas coller. Mes images à moi, elles vont revenir. Donc, en fait, faire l'expérience de la peur, la peur est une émotion et comme toutes les autres émotions, c'est un vécu d'abord dans le corps. L'aspect mental est secondaire d'un point de vue aussi phylogénétique. Chez l'animal, l'émotion, elle est vécue dans le corps. Donc, on revient au ici et maintenant. Dans la pensée, on n'est pas ici et maintenant, on est ailleurs et après. Voilà. Il va se passer ci, plus tard. Donc, sur ce qui va se passer plus tard, je n'ai aucune prise. Sur ce qui se passe maintenant, j'ai peur. Là, j'ai une prise parce que, ayant peur, je sens mon cœur qui bat, mon estomac qui est noué, mes mains moites. Là, je peux rentrer en contact avec moi. Déjà, là, je suis ici maintenant. Et en fait, je peux découvrir que si mon scénario catastrophe, lui, me tétanise, que d'affronter ma peur ici et maintenant, ça c'est tout à fait possible. Et donc je peux laisser passer les vagues de peur et me rendre compte que ça ne me détruit pas et qu'en fait, si je vis ma peur dans mon corps, eh ben c'est jouable, je peux faire avec et j'ai pas besoin de me rassurer et qu'au bout d'un moment, je peux ramener la représentation qui me fait peur, laisser la réaction monter et peu à peu la réaction s'épuise naturellement sans que je me raisonne, sans que je sois obligé de, je dirais, de me manipuler mentalement.
Alors pourquoi au-delà de la question du fait que ça nous empoisonne la vie d'être tétanisé par la peur ou que ça nous finalement ça nous empêche d'être véritablement ce qu'on est et de développer nos talents à la hauteur de ce qu'ils sont. Pourquoi la peur est une émotion aussi négative sur le plan spirituel?
Parce que la peur est sûrement l'émotion qui engendre le plus de refus. La peur est une émotion aversive, doublement aversive. D'abord, ressentir la peur, c'est pénible. Et en plus, l'objet de la peur, aussi, il y a une aversion. Donc, tout ça fait qu'on a envie de ne pas être là, on a envie de ne pas être en contact. Et si la vie spirituelle, c'est être là, ici et maintenant, si on prend les choses au plus simple, être totalement, entièrement là, ben l'émotion de peur est l'émotion qui va nous chasser du ici et maintenant en nous envoyant ailleurs et après dans des représentations imaginaires. Donc je ne suis plus là.
Voici ce que disait Swami Prajnapad au sujet de la peur. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur, qui apparaît sous des formes aussi diverses que la honte, la jalousie, la colère, l'insolence, l'arrogance. Quelle est la cause de la peur? Le manque de confiance en soi. Quelle est la nature de la peur? La peur est une attirance négative. Elle est un souhait négatif. Vous souhaitez quelque chose, mais d'une certaine façon, vous voulez le refouler. La peur apparaît. La peur de la mort, ce n'est que l'attirance vers la mort. La peur est une attirance négative. Soyez libre de la peur. Vous pouvez vous rendre libre de la peur si vous pouvez vous libérer de la haine. Si vous voulez tuer et que vous ne pouvez pas, alors vous sentez que vous êtes menacé de mort. J'ai fait exprès de lire plusieurs petits paragraphes, les quelques paragraphes qui sont sous le mot peur, parce qu'on voit plusieurs éléments apparaître ici et qui, au fond, sont tous repris dans votre livre, de manière un peu plus développée. Le premier qui m'intéresse ici, c'est qu'il relie en fait la peur, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est un tel problème sur le plan spirituel. Il lie ça à la honte, la jalousie, l'insolence, l'arrogance. C'est-à-dire qu'en fait, la peur nous fait entrer dans des, on va dire, des vices ou des défauts. C'est-à-dire, elle nous amène à nous comporter d'une manière anti-éthique, d'une manière qui n'est pas juste, d'une manière qui n'est pas en accord avec les valeurs d'humanité qui sont... qu'on va appeler, pour faire vite, les vertus humaines. Christophe Massin, est-ce que c'est aussi ça le problème de la peur? C'est que ça nous fait faire des choses qui ne sont pas dignes de nous.
Oui, mais donc, je ne voudrais pas pour autant qu'on la diabolise,
oui, bien
la
sûr.
Peur.
Vous faites très attention à ça.
Je suis très attentif à ça, parce que ce n'est déjà pas facile d'avoir peur. Et si on traite la peur en ennemi, ça ne va pas aller. Non, il ne faut pas traiter la peur en ennemi, pas dire que c'est le mal absolu. Bon,
non, oui, mais la cause, mais ça voilà. Peut être la cause. Oui.
Mais elle nous met en difficulté, certes. Et effectivement, quand Swami Prajnapad dit à la base, il y a le manque de confiance en soi, dans toutes les émotions qu'il cite, la honte, etc. Oui, c'est-à-dire que je ne me crédite pas au fond. Je vois que les ressources du petit moi. Le petit moi, ben oui, il a des ressources limitées et forcément, si on le critique, si on l'aime pas, il va se rebeller ou il va avoir honte. Mais il ne réalise pas qu'il est infiniment plus, nous ne réalisons pas que nous sommes infiniment plus que cela et que nous avons en nous une ressource. La confiance en soi, c'est pas seulement une confiance narcissique en fait, dans mes capacités, je suis le meilleur, je suis plus malin. Non, c'est une confiance dans le fait qu'il y a en moi une intelligence qui saura répondre à la situation.
Oui, mais en même temps, vous expliquez bien que, justement, c'est pour ça qu'il faut travailler en parallèle sur la question de l'ego. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, est-ce que c'est la peur qui nourrit l'ego ou l'ego qui nourrit la peur? C'est peut-être un cercle vicieux, Christophe
oui.
Massin.
Oui, c'est indissociable. L'ego est tissé de peur. Il veut garder ses acquis, il a peur qu'on les lui enlève, il veut obtenir davantage. Donc l'ego est dans un souci permanent en fait.